Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mais vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, quelques destinations pour le week-end ou pour les vacances de février, en compagnie de Sylvain Bazin et de Sandrine Mercier. Des destinations dans la nature, dans le massif de la Chartreuse ou encore en Islande. Le journaliste Julien Bisson vous conseillera un livre et un film d'animation qui vous feront du bien ce week-end. Et notre chef Angèle Ferremag vous proposera une recette à partager ce week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Dans votre chronique philo ce matin, nous partons sur les hautes cimes de la pensée. Hein.
Oui, on va essayer de monter une petite expédition philosophique à propos de la montagne. On va essayer de penser avec la montagne.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine?
Eh bien, c'est une petite fille qui est perdue dans un monde étrange qu'elle ne comprend pas, mais elle est comme nous, à un moment ou à un autre, elle va se réveiller.
Bonjour Maïe Mazorette.
Salut Ali.
Qui préfère que je la tutoie tout au long de cette émission? Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission?
Eh bien, dans cette émission, on va parler de montagne, de nourriture, on va parler de plein de choses, de lecture, et moi je vais faire le lien entre tout ça, donc c'est très très important de bien écouter l'émission jusqu'au bout, ce que vous faites évidemment. Chaque semaine, c'est important de bien podcaster Grand Bien vous fasse, et vous saurez de quoi je vais parler du coup dans 50 minutes.
Vous pouvez partager vos conseils de destination de vacances en France. N'hésitez pas à défendre votre région. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef de la guinguette d'Angèle à Paris et autrice de Bon, Simple et Sain chez Marabout. Faites-nous saliver avec votre recette à partager ce week-end.
Alors ce week-end, on va parler de montagne. Donc moi, je me suis dit que j'allais vous faire un Mont Blanc.
Et il est super bon.
Merci. Et je vais vous proposer deux petites recettes. En fait, le Mont Blanc un peu classique. Et donc c'est un socle de meringue avec une chantilly aérienne en dôme et par-dessus des vermicelles de crème de marron, mais j'ai fait une petite alternative pour Ali, qui finalement n'aime pas non plus ma deuxième alternative, à la patate douce. Ouais. Donc on va faire deux Mont Blanc, un jaune, un marron.
Et une question surprise de Johanna, qui vous demande comment faire une mousse au chocolat vegan.
C'est très facile, on va utiliser de l'aquafaba.
Alors c'est quoi?
Alors l'aquafaba, c'est l'eau de pois chiche. Alors soit on fait réduire l'eau...
Ça a du goût, ça a le goût du pois chiche,
justement, c'est délicieux et c'est très étonnant. Donc soit on fait réduire l'eau de cuisson de ces pois chiches, beaucoup réduire, jusqu'à à peu près un dixième, soit quand on achète des pois chiches déjà cuits, ce qui est quand même plus simple, on va récupérer l'eau et les battre en neige comme des œufs. Ça marche extrêmement bien parce que ça contient aussi de l'albumine, comme le blanc d'œuf. Et ensuite, on ajoutera tout simplement du chocolat noir fondu. Moi, je mets même pas de sucre. Et ça marche super bien. C'est délicieux et c'est vegan.
Merci pour Johanna. Je sens que Guillemette va faire cette recette ce week-end.
Oui, bah, je vais essayer. Non, mais c'est juste l'idée d'ouvrir une boîte de pois chiches, une boîte de conserve et de garder le jus.
Bah, qui en c'est soit très ça... économique.
C'est vrai. Bon. Alors, okay,
et en plus, ça ajoute un petit goût salé qui va très très bien avec le chocolat. Ah,
bonjour Sylvain Bazin.
Bonjour Ali.
Journaliste spécialisé dans la randonnée et les sports de nature, rédacteur en chef du magazine Wider, c'est ça, je le prononce bien?
Tout à fait.
Vous avez notamment publié chez Grund les plus beaux endroits pour camper. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali. Bonjour
rédactrice en chef du magazine AR, non pas comme Ali Rébéi, hélas, mais comme Aller-Retour à la une d'AR en ce moment.
C'est le Japon magnétique. On fait un sacré voyage pendant l'hiver. D'ailleurs, il y a des baisers gelés qui nous sont envoyés de Tohoku. On ira aussi carrément tout au sud. Ça, c'est carrément ambiance tropicale. Il y a des mers bleues. On est juste en face de la Corée. C'est tout au sud du Japon. Et on a tout un voyage aussi autour du Sancha et du Matcha, puisque c'est le pays du thé vert.
Petit avant-goût de vos destinations respectives, tout à l'heure, Sylvain Bazin.
Ah bah écoute, la Chartreuse, on va dire, c'est vraiment la spiritualité de la montagne dans toute sa force.
Sandrine Mercier.
Un petit tour en Islande en hiver et il y a un musée du phallus.
Ah.
Je vous emmène au musée du phallus.
Restez avec nous. Restez avec nous. Allez, bonjour Julien Bisson. Bonjour Ali. Sosie officielle du comédien François Civil. Quand il n'a pas sa doublure lumière, quand vous ne faites pas, c'est vos à côté, hein, ça faut le dire. Doublure lumière de François Civil.
Voilà,
vous êtes rédacteur en chef du 1 Hebdo. À la une cette semaine.
Eh bien, on se demande comment réussir la transition écologique et surtout, est-ce qu'on va un peu parler d'écologie pendant cette campagne.
Et on commence avec vous. Alors Julien Bisson, une belle lecture pour ce week-end. Voyage immobile avec l'un des plus beaux romans que vous ayez lu, La montagne volante de l'Autrichien Christoph Ransmeyer, paru en 2008 et disponible au livre de poche. C'est l'histoire de deux frères bien décidés à gravir une montagne de l'Himalaya, absente des cartes.
Oui, un roman qui était paru en 2008, traduit par vraiment admirablement par Bernard Kreis. Je pense qu'il faut il faut le saluer. Et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu. Et comme je me suis dit qu'on allait parler de montagne pendant cette émission, et ben là c'est la haute montagne. Alors la haute montagne, ça part déjà pas forcément très haut, parce que comme vous l'avez rappelé, on est en Irlande, au centre de Rissi. Il y a Pad et Liam, deux Irlandais, deux frères aussi dissemblables l'un que l'autre. Le premier a fait carrière dans la marine, l'autre dans l'import-export. Ils ont fini tous les deux échoués sur un îlot désert au large des côtes irlandaises, où ils entretiennent une minuscule exploitation agricole. Là, vous allez me dire, a priori, on est loin de la montagne. Mais bon, les deux frangins, eux, sont vraiment épris de grands espaces, et ils sont en quête, comme ils le disent, je les cite, d'un lieu immuable sous un ciel immuable. Alors, ils décident de partir pour le Tibet oriental à la conquête du Pour-Ri. Je ne sais pas si je prononce bien. Pour-Ri, la montagne volante. C'est un sommet si haut qu'il disparaît le plus souvent au-dessus des nuages. Un sommet mythique surtout, parce qu'il n'a jamais encore été escaladé. C'est comme, vous savez, l'une de ces dernières traces blanches sur les cartes terrestres. Ils partent vers ce Pour-Ri, c'est le point de départ d'un périple vers le toit du monde qui passe par le territoire Kham, une province interdite aux étrangers, où seuls subsistent les nomades Kampa et leurs yaks, et où ces deux frangins vont voir aussi bien leurs désirs et leurs chemins enfin diverger. La montagne volante, c'est un roman prodigieux, vraiment, entre l'Atlantique et l'Himalaya. C'est une quête d'absolu et d'éternité qui est servie par une langue étonnante. Ça, il faut vraiment le souligner, parce que c'est une langue en phrases volantes, comme dit l'auteur. C'est une sorte de poème épique, divisé en strophes et en chants. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on va lire ce livre un peu comme ça, avec des vers un peu libres? Eh bien, parce qu'on progresse dans le texte, comme on monte vers les sommets. Tous ceux qui ont fait un peu, justement, de grandes randonnées savent qu'il y a quelque chose d'entêtant dans le rythme de la montée. Eh bien là, dans ce livre, il y a le rythme entêtant des phrases, et on ne songe plus au manque d'oxygène et au temps qui se dilate. C'est un livre qui était paru en 2008, qui m'avait profondément marqué à l'époque, et je suis allé vérifier, n'a encore jamais été édité en poche, visiblement.
Ah d'accord, parce que j'ai eu cette information qu'il était disponible au livre de poche. Ah, bah visiblement
alors, Visiblement, alors s'il est au livre de poche, je sais.
On va vérifier, tout de suite.
Je me suis dit que c'était un livre qui méritait d'être accessible à tous. Voilà, vous ne le regretterez pas.
La montagne volante de l'Autrichien Christoph Ransmeyer. Sylvain Bazin, vous connaissiez ce roman?
Alors j'en avais entendu parler, mais là je suis bien décidé à le lire maintenant.
Quel roman de montagne vous a marqué? Parce que le roman de montagne, c'est un genre à part entière. Hein.
Oui, c'est vrai que la montagne inspire beaucoup de romanciers, d'écrivains. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser d'abord aux grands récits, hein, des alpinistes eux-mêmes, hein. Bon, j'ai été élevé avec la Napurna premier 8000 chez mes grands-parents. C'est un livre qui m'a marqué. Après, je suis peut-être un peu classique. J'aime bien Barnabo des montagnes de Buzzati, avec, voilà, ce gardien de mine, de poudrière, et puis l'attente, hein, qui est le grand thème de Buzzati. J'aime bien aussi l'ambiance des saisons de Maurice Pons, qui a cette vallée étrange. Alors là, c'est vraiment de la montagne dans l'imaginaire, mais c'est ce qui me plaît peut-être un peu plus même que le roman de montagne qui va s'inspirer directement des exploits alpins, même s'il y en a également de très beaux.
10h14, il est l'heure de se faire de nouveaux amis avec Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, quel personnage de fiction mérite notre amitié cette semaine?
Alors, cher Ali, chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces deux dernières années m'ont un peu donné l'impression tout de même d'être un lapin dans les phares d'une voiture.
Ah bon?
Oui. Et encore, on ne sait même pas si la voiture est vraiment conduite par quelqu'un. Alors, un lapin affolé qui a perdu la notion du temps, comme si le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles tournait sur lui-même, coincé dans une étrange boucle temporelle. Le temps, quand il est clément, tisse une texture soyeuse qui s'appelle l'avenir. Mais quel contour surréaliste et opaque a pris cet avenir pour les adolescents et préadolescents qui sont censés être à cet âge de tous les possibles où il s'agit de démasquer le monde adulte? Alors, je voudrais vous présenter ma toute jeune amie, Alice. Cet enfant né de l'imagination farceuse, surréaliste, mais aussi mathématique, de Lewis Carroll, et qui pourrait bien rassurer nos enfants perdus. Alice donc, après avoir couru derrière un lapin au retard pathologique, tombe dans un trou et sa chute l'amène dans un pays irréel, étrange et inquiétant. Un univers de non-sens, où rien n'est logique, où elle trouve tout ridicule et où justement le temps est suspendu puisqu'il est toujours 6 heures. Ce monde est si fou qu'Alice en perd son identité. Elle rapetisse ou grandit beaucoup trop, semble se dédoubler, sans parler du fait qu'elle est menacée par la reine, donc par le pouvoir en place, d'avoir la tête coupée. De perdre la tête.
Croyez-vous que j'ai complètement perdu la tête ?
Je le crains fort. Tu es déboussolée, tu es illuminée, tu es devenue folle. Mais je vais te dire un secret. La plupart des gens bien le sont. Ce n'est qu'un rêve, Alice. En rêve, rien ne peut t'arriver. Mais si tu as très peur, tu peux faire en sorte de te réveiller, comme ça.
Aïe !
Oui, il suffit comme Alice de se pincer pour se réveiller. Et j'admire ce petit bout de femme qui, heureusement, garde la tête sur les épaules. Elle répète sans cesse « Je me demande ». Et cette curiosité l'aide à avancer et à découvrir le monde qui l'entoure, même s'il l'effraie. Toujours rationnelle, elle balance à la reine. On ne peut pas croire des choses impossibles. Celle-ci lui répond, j'ose dire que vous ne vous y êtes pas beaucoup exercé. Tu m'étonnes. Quel enfant, quel adulte d'ailleurs, aurait pensé à s'exercer, à l'impensable, comme vivre soudain au milieu de visages qui disparaissent sous des masques en papier, qui ressemblent d'ailleurs à de vieilles chenilles bleues, et ne laissent visibles que les yeux. Alors notez bien, c'est exactement le contraire du chat de Cheshire. Il s'évanouit, à l'exception de son sourire, qui demeure en suspens quelque temps après tout le reste.
Et puis à la fin du conte, Alice ressort du terrier.
Oui, Alice se réveille de son rêve lorsqu'elle réalise que les soldats de la reine ne sont au fond que des cartes à jouer. Ok, le monde est dingue, mais elle n'a rien à craindre. Elle a surmonté la peur d'être perdue et de ne pas être comprise. Elle a les cartes en main, saura dorénavant faire la part entre cauchemar et réalité et se souviendra du conseil du chat quand elle lui demandait « Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger ?»« Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, » dit le chat. « Cela m'est assez indifférent, » dit Alice. Un peu comme tout adolescent en ce moment, qui ne sait pas s'il veut devenir ébéniste, médecin, aller chez le psy vider son sac, ou juste pouvoir retourner danser en boîte hein, au lieu de réviser ses maths. « Alors peu importe de quel côté vous irez, » dit le chat. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en explication. « Cela ne peut manquer, pourvu que vous marchiez assez longtemps. » En fait, le chemin d'avenir est comme ce chat philosophe, inquiétant quand il semble s'évanouir, mais dont la seule partie qui reste visible assez longtemps est un sourire.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est magnifique, c'est un très beau portrait d'Alice. Ce qui me touche aussi dans ce personnage, c'est que c'est bien sûr un récit d'initiation et d'apprentissage et qu'il révèle une agentivité au féminin. C'est-à-dire que souvent, et qui a partie liée avec l'imaginaire et à l'imagination, parce que souvent, au contraire, l'imagination et l'imaginaire, d'avoir trop d'imagination, c'est un reproche qu'on a fait pendant très longtemps aux jeunes filles, voilà, aux jeunes garçons aussi, mais surtout aux jeunes filles. Et là, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une requalification de cet imaginaire au nom, justement, d'un apprentissage, d'une autonomie, d'une indépendance et d'une capacité à agir. Exactement. Donc, c'est vraiment magnifique.
Et c'est quoi l'agentivité au féminin?
Oh, pardon. L'agentivité, c'est... Non, l'agentivité, c'est devenir agent, c'est-à-dire, en fait, une capacité d'action, en fait. Voilà.
La chronique de Guillemet Todisino, l'ami du vendredi, a partagé et podcasté sur les applis France Inter et Radio France. Le livre de Christophe Ransmer, La montagne volante, votre conseil Julien, est disponible donc au livre de poche.
Et voilà. Tant mieux, précipitez-vous dessus.
Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalagui avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation était signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, les Starsky Hutch de la console, Pierre-Yves de Rolin et Rémi Sistiaga. Et merci à notre stagiaire de 3e, brilleux, grand passionné de radio. Dans un instant, des destinations pour le week-end ou pour les vacances de février. N'hésitez pas à défendre un bel endroit de votre région au 01 45 24 7000 et on écoute l'inusable Myriam Makeba. Makeba, pata pata.
Voyager avec lui, c'est un rêve. Il vous explique tout le pays où qu'on passe.
Grand bien vous fasse.
C'est là que le grand Charles, il a le grand 7. Là, c'est la région des Tricards. La Lyon où Alphonse a descendu Dédé. Un vrai géographe.
Sur France Inter.
10h24, grand bien vous fasse loisir et quelques destinations pour le week-end et les vacances de février. Sylvain Bazin, je rappelle que vous êtes l'auteur de Camper dans les plus beaux endroits du monde. Sandrine Mercier, vous êtes rédactrice en chef de la revue AR Magazine. Alors, Sylvain Bazin, on part à la montagne, autrement qu'à travers le ski alpin, direction le Haut-Jura, à traverser en ski de fond et en raquette.
Oui, tout à fait, Alice. Et le Haut-Jura, sont des reliefs un peu plus doux que dans les Alpes et qui se prêtent vraiment à merveille aux activités nordiques et à leur découverte. Alors, on peut tout à fait s'initier au ski de fond. Hein. Il y a des moniteurs qui sont là pour ça.
On va s'y mettre, Guillemette.
J'en bafouille. Hein. Oui, d'accord. Moi, je dis d'accord. Je suis pas sûr en fait que ce soit vraiment d'accord.
Moi, je suis un gros néophyte.
Je réfléchis.
Hein.
Oui, moi aussi, je suis néophyte.
Ouais, mais c'est une activité à laquelle on peut s'initier facilement. Bon, moi-même, je suis pas très doué, hein, donc j'ai pris des cours. J'y arrive toujours pas très bien, mais avec un petit peu un meilleur sens de la glisse, je pense qu'on peut vraiment très vite s'amuser. Et puis c'est vrai que les hauts plateaux du Jura se prêtent à merveille à cette glisse. Tout est prévu pour. Hein. Et alors pour ceux qui sont un peu plus réfractaires à la glisse, il y a la raquette hein, qui permet aussi d'explorer ces forêts couvertes de sapins, ces hauts plateaux, et c'est vraiment très très agréable. Et c'est vrai que le Jura, c'est aussi une terre de grande itinérance. Hein. C'est vrai que c'est le premier massif qui a développé un réseau de grandes traversées, hein, les fameuses GTJ. Alors il y a la version ski de fond, qui est d'ailleurs la première en date, hein, qui est sur 180 km. Là, c'est vraiment toute une traversée du massif du Jura qui est très belle. Alors faut évidemment savoir skier, mais on s'immerge vraiment dans la nature hivernale. Et puis il y a également la GTJ en raquette. C'est un peu plus court. C'est vraiment sur le Haut-Jura, dans le parc naturel. Et là, bah, c'est 117 km. Alors, c'est vrai qu'en raquette, hein, la moyenne horaire, c'est plutôt 3-4 km heure. On prend le temps de contempler. Mais voilà, c'est tout prévu. Il y a des beaux endroits pour s'arrêter, des refuges, des chambres d'hôtes. Et on peut vraiment s'immerger dans la nature hivernale, dans ce Jura qui s'y prête tellement bien. Et c'est très agréable.
Angèle Ferremag.
Oui, si d'autres activités qui débarquent dans nos montagnes françaises, c'est le yoga Tummo qui nous vient du Tibet et le snoga qui nous vient du Québec. Et donc ça consiste à faire, guillemets, des postures de yoga, de la méditation, des respirations presque nues dans la neige. Et donc ça renforcerait le système immunitaire, ça boosterait le système cardiovasculaire, etc.
Et on n'est pas obligé d'être nu en raquette.
Non, justement, on n'est pas
très
bien.
Alors, je préfère, je pense.
La chronique sexe contamine complètement le reste de cette émission.
Sandrine Mercier.
Oui, il y a aussi, on peut faire des balades en raquette aussi à la nuit tombée. Ça, c'est vraiment aussi magique. Et j'ai vu que dans le massif central. Si tu veux pas te transformer en glaçon, il vaut mieux être un peu habillé la nuit. Par exemple, dans le département de la Loire, dans la station de Chalmazel, il y a de la neige en ce moment. J'ai vu ça
dans
sur la webcam. Exactement, dans les Monts du Forêt. Et c'est vraiment des petites stations à taille humaine. On peut monter aussi sur le col de la Loge, je crois. Voilà. Et c'est Anne-Marie Griot qui propose des veillées nordiques. Donc, on prend ses bâtons, ses raquettes, on part vers 17h, 18h, et on s'enfonce comme ça dans la forêt. On enjambe les branches qui sont à terre, on marche dans la neige, on suit les traces, on écoute les ululements, et on poursuit comme ça la balade dans la nuit sous les étoiles. Et on termine alors vraiment par le solide repas montagnard, parce que la spécialité du coin, c'est la patia.
C'est quoi ?
C'est en fait un gratin de pommes de terre, mais juste à la crème, avec de la salade et de la charcuterie de pays, et on l'a bien mérité après 2 heures de raquette.
Thibaut de Saint-Maurice, qui profite de cette émission pour consulter son courrier, êtes-vous adepte de la raquette ou du ski de fond ?
Merci pour cette bienveillance et ce soutien sans faille.
Je suis adepte non, mais en revanche, j'ai expérimenté la raquette et en famille, notamment avec des enfants petits, où parfois c'est un peu galère, le ski, il y a du monde, tout ça, etc. En fait, c'est formidable d'aller marcher avec eux. Et puis, il y a un truc qui est formidable aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, et donc ça s'appelle le calme, en fait. Voilà. Et le calme, c'est formidable.
Oui, c'est effectivement une activité qui est très adaptée aux familles. Et puis, voilà, qui permet vraiment de sentir la montagne en hiver d'une façon totalement différente de celle des grandes stations de ski alpin. Et à mon sens, voilà, il y a une immersion dans la nature montagnarde et hivernale qui me semble beaucoup plus forte.
Alors pourquoi, allez-y, pardon.
Non, je veux dire, ça fonctionne tellement bien les raquettes que l'hiver dernier, quand on pouvait pas trop bouger encore et que tout le monde allait à la montagne mais que les pistes étaient fermées, tout le monde s'était rué sur la raquette et il n'y avait même plus assez de raquettes. Produisait plus assez de raquettes à l'échelle mondiale, donc c'était...
Oui, c'est toujours un peu en rupture de stock, malheureusement.
Il faut se jeter sur les raquettes quand vous arrivez les premiers, quoi.
Alors Sylvain Bazin, pourquoi aimez-vous tant le massif de la Chartreuse ? Pour vous, c'est un lieu extraordinaire pour la contemplation et la spiritualité, hein ?
Oui, alors c'est vrai que là, dans cette émission...
C'est chez vous, hein ?
C'est chez moi, oui, j'habite au pied du massif. Mais la Chartreuse, alors c'est ce petit massif des préalpes occidentales, hein, entre Chambéry et Grenoble, hein, c'est 70 km. Mais ce sont vraiment des montagnes qui sont très identifiables, chacune à sa forme, un peu son visage. Hein. On pense à Chamchaude, au Charmançon, au Grandson, à la Pinéa, voilà. C'est des montagnes très découpées qu'on reconnaît très très facilement. Et puis évidemment la Chartreuse, c'est ce lieu de haute spiritualité, hein. C'est vrai qu'on évoque souvent la spiritualité, la quête spirituelle dans les montagnes en évoquant l'Himalaya, hein, dont on a déjà parlé ce matin, mais la Chartreuse est également emplie, hein, de cette forme de quête, hein, spirituelle, religieuse, puisque évidemment c'est ici que les moines chartreux ont élu domicile, hein, dans ce lieu qui s'appelait déjà le désert de Saint-Pierre, hein, au Xe siècle, quand ils sont arrivés. Et c'est vrai que se promener, notamment l'hiver, aux abords de la Grande Chartreuse, c'est vraiment, on a des sentiments, une sensation assez extraordinaire, hein. Vous savez, vous entrez dans cette zone de silence, hein, où il faut pas faire trop de bruit, on chuchote et on est dans cette ambiance extraordinaire avec ces hauts murs, c'est cette grands bâtiments voilà, qui sont assemblés. Hein. Il y a des bâtiments du 14e, il y en a du 19e, un ensemble de corps de bâtiments extraordinaire. Et tout ce mystère aussi, hein, puisque évidemment les moines chartreux y habitent encore, on ne peut pas rentrer, il y a un musée juste à côté qui explique la vie monachale. Mais voilà, on est vraiment plongé dans cette ambiance un peu mystérieuse, un peu mystique et extrêmement spirituelle. Et puis également cet écrin de montagne dont on comprend la puissance et voilà toute l'inspiration qu'elle a pu avoir sur Saint-Bruno et ses disciples.
Et je confirme, c'est vraiment un lieu extraordinaire, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer dans ce massif et pour goûter un peu de cette spiritualité, encore une fois, juste pour essayer d'en prendre la mesure, il y avait un grand film documentaire formidable qui s'appelle Le Grand Silence de Philippe Gröning, qui était cette immersion dans ce silence. Et il y a notamment une présence à l'image de la montagne qui entoure le monastère et qui permet de prendre la mesure de ce lien entre le paysage extérieur et le travail intérieur des âmes ou de l'esprit.
Guimette.
Oui, je suis d'accord, c'est un film merveilleux. C'est en soi déjà un voyage, ce film.
Exactement.
Alors Sylvain Bazin, si on n'aime pas trop la montagne, on peut pratiquer le GR 340, c'est le GR préféré des Français. Le Tour de Belle-Île-en-Mer, et c'est le GR préféré des Français, selon un concours lancé par la Fédération de la randonnée pédestre. Le Tour de Belle-Île-en-Mer, c'est un sentier de 87 km.
Oui, tout à fait, Ali. Alors là, effectivement, on part en Bretagne.
Et cette saison, c'est
dans
génial.
Le Morbihan, c'est parfait. Alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a la tempête qui arrive.
Oui, c'est vrai.
Non, bah, aujourd'hui, éviter les bords de mer aujourd'hui. Mais le reste du temps, en hiver, au printemps, à l'automne, c'est vraiment tout à fait indiqué d'aller sur Belle-Île. Hein. On prend le bateau de Lorient, c'est très facile. Ça, la traversée est tranquille. Hein. On dit qui voit Belle-Île voit son île. C'est pas une zone trop agitée au niveau des courants. Et puis c'est vrai que ce tour de Belle-Île en mer, alors c'est un petit peu un GR 34, donc qui longe toute la côte bretonne en miniature, mais on s'immerge vraiment dans un petit monde, hein, avec ses criques, ses plages. Alors évidemment, il y a des temps forts, hein, les aiguilles de Port-Coton, hein, qui ont notamment inspiré Claude Monet. Il y a le fort Sarah Bernhardt sur la pointe des Poulains, mais l'ensemble du parcours révèle des petits endroits qui sont très très beau, assez contrasté aussi. Hein. Il y a des plages, il y a des zones, vraiment une côte sauvage, hein, sur le sud. On marche quand même, alors c'est pas de la montagne, mais enfin il y a quand même un bon dénivelé, hein, ça monte et ça descend tout le temps. Il faut compter entre 5 et 6 jours pour faire le tour en entier sans trop d'efforts, sans trop souffrir. Mais voilà, c'est très agréable. Il y a aussi les petits villages, hein, moi je pense à Bangor par exemple, la petite place de l'église, là la crêperie, c'est vraiment tout un petit monde et c'est très agréable à la fin de la randonnée quand on retrouve le fort Vauban à Le Palais. On dit Le Palais, on m'a dit. Donc j'ai dit Le Palais. On n'a pas envie de quitter Belle-Île.
Maïa Mazorette.
Oui, j'ai une question. Quand vous dites que c'est le GR préféré des Français, est-ce que ça veut dire qu'on a un petit peu de calme ou est-ce qu'on est tout le temps au milieu de plein de gens qui marchent?
Alors non, enfin moi typiquement j'y suis allé l'an dernier, la semaine du 14 juillet, je craignais d'avoir beaucoup de monde sur les sentiers et c'était quand même très calme. C'était très calme. Il y a un petit peu de monde sur les plages, mais juste ce qu'il faut pour sentir un peu d'animation. Et puis sur le sentier, on rencontrait quelques randonneurs, mais c'était encore très calme. Alors c'est vrai que là, il a été élu GR préféré des Français cet automne, donc il y aura peut-être un petit peu plus de monde cette année, mais ça reste tout à fait un endroit où on se sent bien et en communion aussi avec la mer.
Alors celle du Labour Bleu, quand tu es à côté de Reykjavik, la différence c'est qu'elle est salée en plus. C'est une eau marine. Là on a le bonheur d'avoir cette eau naturelle silice. Quand on a de la silice, sans le sel, et c'est un petit bonheur qui est assez rare quand même sur cette planète.
Bon, c'est un petit peu la carte postale d'Islande en même temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve à marcher en maillot de bain dans la neige avec un environnement absolument de nature absolument extraordinaire et puis une plongée dans l'eau chaude et on y est.
extrait de l'émission sur les docks hein, sur France Culture en 2009. Sandrine Mercier, direction l'Islande. Petite parenthèse, pour aller en Islande, quelles sont les formalités? C'est quoi, une carte d'identité, un passeport en cours de validité, c'est ça?
Le passeport suffit.
Voilà, ça suffit. Voilà.
Et un test antigénique. Voilà. Quand
et
même,
il paraît que le mois de mars, c'est le mois le moins cher pour aller en Islande.
Oui, il y a une toute nouvelle compagnie low cost, d'ailleurs islandaise, qui s'appelle Play, et il faut compter 200 euros aller-retour. Donc, c'est honnête, hein, ça vous tente tout de suite.
On y va.
On y va.
Alors...
Et on y va en hiver, donc. Hein, on y va en hiver, en Islande. Alors là, on était dans le Blue Lagoon, hein. Je vous emmènerai tout à l'heure dans le tout nouveau spa qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le Sky Lagoon. Pareil, un spa de source chaude, c'est vraiment le nouvel incontournable d'un séjour en Islande, je vous emmènerai tout à l'heure. Alors d'abord l'hiver, j'ai été donc la semaine dernière, j'étais partie avec deux idées, je ne sais pas si vous avez les mêmes, qu'est-ce que vous vous dites, Islande en hiver, je me suis dit, il va faire froid, il va faire nuit. Et en fait, pas du tout, pas du tout.
Il fait chaud et jour.
Il fait chaud. Alors la nuit, eh bien effectivement, quand on arrive à l'aéroport, il y a l'info qui est affichée en grand, lever du soleil 11h16. C'était la semaine dernière, et coucher du soleil 16h12. Alors je me suis dit, bon bah ça y est, la nuit va durer une éternité, la dépression nous guette, enfin ça va être horrible. Et en fait, pas du tout, on vit pendant toute cette période une sorte de lumière crépusculaire. Et il y a vraiment ce ciel très lumineux qu'on peut vivre, nous, pendant une heure avant le coucher du soleil ou une heure juste avant, quoi. Et ou pareil pour l'aube. Et donc on a cette lumière bleutée, ces nuages roses pendant une très bonne partie de la journée. Donc ça donne vraiment une, ça crée une ambiance assez magique. Donc ça c'est vraiment chouette. Et la neige, elle est toujours bleue parce que le ciel se reflète dans la neige. Et donc on a c'est vraiment dans un monde assez enchanté. Alors il fait froid. Eh bien bon, j'avais une doudoune, un bonnet, des gants quand même. Mais en fait pas si froid que ça, puisque en fait on a beau être presque sur le cercle polaire à 60 degrés nord, on frôle le cercle arctique, mais en fait il y a le Gulf Stream qui rôde pas loin, et du coup l'hiver est plutôt doux. Et là franchement j'étais à moins 5 maximum. Ouf. On était entre 0 et moins 5, donc c'est pas les moins 20, les moins 30 qu'on peut imaginer sur les mêmes latitudes au Canada ou même en Scandinavie. Bon, par contre le blizzard il peut quand même souffler, il peut souffler assez fort. Bon, quoi qu'il en soit, on ne va pas en Islande pour sa météo, puisqu'on dit souvent qu'il fait toutes les températures, toutes les météos dans une seule journée. C'est ça aussi qui surprend, quoi. On peut partir dans le brouillard et une heure après avoir ce ciel bleuté. Donc c'est une surprise perpétuelle. Alors quand on sort de l'aéroport, déjà le voyage commence tout de suite, puisque il y a des champs de lave noire qui sont complètement recouverts d'une fine couche de neige. Donc ces champs s'étendent à perte de vue avec la mer assez grisâtre qui bat au loin. Donc c'est vraiment assez, on est transporté dans un autre monde dès le début. Et on a vraiment l'impression d'être dans un film en noir et blanc. Tout est noir et blanc autour de nous. Donc c'est assez magique. Et quand on arrive à Reykjavik, eh bien on se jette, j'ai fait ça, j'avoue, je me suis jetée sur le musée du pénis. Parce que c'est quand même, j'en avais entendu parler, mais je voulais quand même aller voir à quoi ça ressemblait. Et ben en fait, c'est des quéquettes d'animaux à gogo. Voilà, c'est unique au monde. Il y a un gars, un collectionneur, un historien qui s'appelle Sigurdur, qui a eu l'idée.
Non,
c'est Sigurdur. Voilà, il s'appelle comme ça.
Sigurdur.
Et il a collectionné des pénis d'animaux depuis les années 70. Et ils sont exposés donc dans du formol, dans des grands tubes en plexi. Du coup, on peut admirer tout ça. Alors il y a tous les animaux. Il y a des gros pâteaux, il y a des petits rikiki, il y a des longs, des durs, bien sûr, des tordus, des poilus, des blancs comme neige. Enfin, c'est vraiment c'est un spectacle d'une grande richesse. Alors, moi, je suis restée quand même assez dubitative devant un sexe de cachalot. À votre avis, il mesure combien, le sexe de cachalot?
Julien Bisson, une idée?
1m50, hein. Allez.
1m70.
Ah,
et voilà, c'est
pas mal, Julien, pas mal.
On dirait un énorme radis d'1m70, un peu couleur marron. Là, j'étais un peu déçue devant celui de l'ours polaire. Ouais. Combien l'ours polaire?
Moi, je pense que tout est très petit.
Voilà, 20 cm. Alors, celui de la girafe, j'ai pas bien compris comment il fonctionnait, mais il est tout blanc, tout tordu au bout avec un filament. Et je cherche toujours celui de l'elfe. On m'a dit qu'il y en avait en Islande, mais bon, l'elfe. Alors, sinon, il y a le Sky Lagoon. Quand on sort du musée, on a envie d'aller se reposer dans le tout nouveau spa de source chaude. Et c'est incroyable parce qu'il est vraiment au bord de l'océan. Donc, on entre en maillot de bain, on parcourt d'abord à travers un canyon de roches, de roches volcaniques. Et tout à coup, il fait froid dehors quand même, le ciel est bleuté. Et vous êtes dans l'eau à 38-39 degrés et vous êtes face à l'océan avec une sorte de piscine à eau débordante. Et il y a un hammam à côté qui est un sauna qui est énorme. Vous savez, d'habitude, le sauna, c'est tout noir, enfin, c'est tout petit, dans du bois. Et là, ils ont une vitrine, une baie panoramique, presque 10 mètres de long. Et vous êtes en train de transpirer au-dessus des pierres de source chaude, comme ça. Vous transpirez et vous voyez les canards passer, les phoques, les îles, la météo. C'est incroyable.
Ça coûte pas trop cher?
Ça coûte à partir de, c'est 30 euros l'entrée pour accéder au lagon. Et si vous, et après, il y a toute une série de rituels, de soins pour la peau. C'est à partir de 50 euros.
Isabelle nous écrit agacement de ce matin. Paris n'est pas toute la France. Quand Paris est en vacances, toute la France ne l'est pas. Isabelle, il y a 2 semaines, il y a 15 jours, nous avons donné des destinations pour les autres zones et nous continuerons à le faire dans cette émission.
Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après. Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative.
Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait.
Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça.
Julien Visson, vous nous proposez... Un voyage immobile avec le sommet des dieux de Patrick Imbert. C'est un film d'animation disponible sur toutes les plateformes de vidéo à la demande.
Oui, on retourne en Himalaya. Le sommet des dieux, à l'origine, c'est une série de mangas en 5 volumes de Jiro Taniguchi. Alors, c'est une série qui était moins connue que Quartier lointain ou Journal de mon père, mais tout aussi appréciée des admirateurs de Taniguchi. Alors, on pouvait se demander comment est-ce que l'œuvre allait résister au passage à l'écran sans le concours de Taniguchi lui-même qui nous a quittés il y a 5 ans. Et le résultat est tout à fait positif. C'est assez époustouflant de tension, de souffle épique, de précision du dessin et de l'animation. L'histoire, c'est celle d'un photographe pour un magazine de montagne, Fukamaki, à qui on propose un soir dans un bar de Katmandou un appareil photo qui aurait pu appartenir à Georges Mallory. Mallory, on l'a entendu dans l'extrait, c'est un des alpinistes les plus célèbres de l'histoire, un homme obsédé par une idée simple, être le premier à gravir l'Everest. Quand on lui a demandé pourquoi il voulait absolument aller là-haut, il avait cette réponse qui est la réponse la plus célèbre de l'histoire de l'alpinisme, parce qu'il est là. Et il est mort en 1924 en tentant d'atteindre justement la dernière crête vers le sommet, 29 ans avant que finalement Edmund Hillary et Tenzing Norgay ne finissent par y parvenir. Mais il reste justement une grande incertitude. Est-ce que Mallory a atteint le sommet avant de disparaître? Et si oui, ce sera lui le premier homme à avoir réussi à gravir l'Everest. C'est l'un des grands mystères de l'histoire de l'alpinisme que retrouver cet appareil photo pourrait enfin résoudre. Mais pour mettre la main sur cet appareil, Fukamaki, donc le héros de ce film, va devoir retrouver la trace de Abu Joji, un alpiniste japonais des années 1980, au talent de grimpe dingue mais au caractère imbuvable, ce genre de caractère qui le condamne aux exploits solitaires. Abu a disparu il y a des années de cela et il détient peut-être la clé du mystère. On va suivre en parallèle ces deux destins dans leur quête de vérité et d'absolu. Alors, Le Sommet des Dieux, c'est vraiment un film d'animation unique, un film d'animation haletant, une œuvre dingue sur cette passion folle qui mène les hommes à se dépasser, à défier le vertige et la mort, à pousser toujours plus haut, toujours plus loin. Cette aventure superbe et inutile, et peut-être d'ailleurs superbe parce que inutile. Alors, si vous n'avez pas le courage de grimper au-delà du 1000 mètres, ben, écoutez, accrochez-vous à votre siège, prenez un grand bol d'oxygène, c'est le film qui vous permettra d'aller goûter à l'ivresse des sommets.
Guillemette, vous partagez l'enthousiasme de Julien?
Ah, je partage absolument. C'est un film d'animation qui est en fait un thriller philosophique. C'est quelque chose de fou. C'est vrai qu'il y a une tension incroyable. C'est à la fois une enquête, une quête, une montée. Et puis finalement cette morale magnifique que tout est dans le chemin.
Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, un film d'animation disponible sur toutes les plateformes de vidéo à la demande. Un petit pan sur le bec, mon cher Sylvain Bazin. Véronique qui nous écrit, petit rectificatif pour Belle-Île, on part de Quiberon et non de Lorient. On peut partir de Lorient?
Oui,
aussi,
non, moi je suis parti de Lorient cet été. Donc voilà. Après oui, ça dépend des saisons, mais... Voilà. Mais non, on peut tout à fait partir de Lorient et à Quiberon, oui, c'est plus facile à Quiberon.
Allez, 10h45 et 20 secondes, il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle.
Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors avec vous Thibaut, on reste en montagne, mais pour une expédition philosophique cette fois. Hein.
Oui Ali, parce qu'il y a ceux qui sont déjà à la montagne, ceux qui vont peut-être bientôt y partir pendant ces vacances-là, et puis il y a ceux qui iront au printemps, ou cet été, ou plus tard encore à un moment de leur vie. Parce que la montagne, c'est un élément de notre géographie terrestre, elle est présente dans les paysages de très nombreux pays, mais comme la mer, la forêt ou le désert, elle inspire aussi une expérience singulière. Elle est là, à l'horizon, comme un espace de liberté à conquérir, mais aussi comme une limite ou une frontière ou un obstacle, et parfois aussi et même souvent comme un danger. Nous allons donc face à plusieurs sentiers pour la gravir philosophiquement. Il y a un sentier éthique du défi qu'elle incarne, le sentier épistémologique de sa définition, on va expliquer tout ça, le sentier métaphysique de l'inspiration et le sentier écologique de son équilibre.
Et on va tous les emprunter. Hein.
Oui, parce que vous allez me donner beaucoup de temps à lire pour les emprunter. Vous allez voir, ça va être rapide. Disons que je vais juste vous indiquer la couleur du balisage de chacun de ces sentiers, et puis ça sera à chacun et à chacune d'entre nous ensuite, s'il le souhaite, de les emprunter en continuant d'y réfléchir. Le sentier éthique d'abord. Que l'on marche ou que l'on grimpe, la montagne se présente comme un défi à notre liberté, et son ascension est l'occasion d'un apprentissage singulier.
Parce qu'en montagne, il n'y a que les derniers 10 mètres qui comptent, et au fond, ce sont les plus difficiles. Donc, comme discipline de vie, comme éthique, c'est très important. Et je pense que cette conquête de la montagne a eu beaucoup d'influence sur mon comportement dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire, quand les choses sont difficiles, je ne les abandonne pas, je serre les dents, et puis je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout, même si c'est extrêmement pénible.
C'était donc le témoignage de l'architecte et designeuse Charlotte Perrian, grande montagnarde. La montagne exige de nous, dit-elle, une force de caractère, une détermination qui forme et transforme notre liberté. Voilà le paradoxe, hein. Pour beaucoup, la montagne, c'est un espace de liberté, mais ce ne l'est qu'à la condition d'en affronter les difficultés et les défis. C'est en s'y confrontant comme un obstacle qu'elle révèle la puissance de notre agir. Deuxième sentier, le sentier épistémologique. Alors épistémologique, c'est un gros mot pour désigner la connaissance que nous pouvons avoir d'une chose. Et pour la montagne, eh ben, on a un problème de définition. Parce que si on voit bien tous où elle se termine, la montagne, c'est-à-dire au sommet, on voit pas très bien où elle commence. Sur les côtés, on va parler de chaînes, de contreforts, et puis vers le bas dans la descente. Quand est-ce qu'on arrive vraiment en bas de la montagne? Au niveau de la vallée? Ou bien plus bas encore, en descendant jusqu'au niveau de la mer? Mais dans ce cas, la montagne serait bien plus grande qu'il n'y paraît. Alors évidemment, j'exagère un peu, mais voyez, on pourrait multiplier les questions autour de cette définition géographique de la montagne, parce qu'elle paraît beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est comme s'il y avait, en fait, davantage à propos de la montagne, une question de continuité et de passage que de rupture et de frontières. Et puis, décider de marcher en montagne, de gravir un sommet, c'est une expérience métaphysique. Voilà le troisième sentier. L'ampleur de la montagne, sa radicalité, nous renvoie très vite à la fragilité de notre existence, nous, de tout petits scarabées. On se mesure à plus grand que soi, comme le silence, vous savez, de ces espaces infinis qui effrayaient le philosophe Pascal quand il pensait à l'univers. La montagne, comme le désert d'ailleurs, tient une place particulière dans les récits religieux partout dans le monde. On s'y retire, on s'y élève, on y contemple mieux le monde et soi-même en retour. Et puis, qui apprend à voir la puissance de la montagne, apprend aussi à voir sa fragilité. Comme bien d'autres paysages et écosystèmes naturels, la montagne repose sur un équilibre subtil, fait par exemple de fleurs d'altitude fragiles, de glaciers monumentaux mais vulnérables et d'animaux singuliers. C'est le sentier écologique sur lequel attire notre attention l'un des pères de l'écologie contemporaine, Aldo Leopold, dans un texte que je vous recommande, « Penser comme une montagne ». Alors bien sûr, les montagnes ne pensent pas, mais rien n'empêche d'essayer d'adopter leur point de vue, et c'est même nécessaire pour qu'elles puissent continuer de nous faire rêver et d'être le terrain d'exploration de notre propre liberté.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice, à partager, à podcaster sur l'appli France Inter, et le montagnard que vous êtes, Sylvain Bazin, acquiesce. Hein.
Ah, complètement, oui. Très, très belle chronique, et puis c'est vrai que toute la... voilà, l'engagement physique, mental, quand on parcourt les montagnes, quand on monte encore davantage, quand on monte au sommet, voilà, c'est quelque chose qui effectivement résonne beaucoup en moi.
Allez, après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef Angèle Ferremaille. Alors, Angèle, vous nous proposez ce matin deux recettes de Mont Blanc.
Oui, le Mont Blanc, donc qui est le plus haut sommet d'Europe, que j'ai eu la chance de gravir à partir de juin, à condition d'avoir un bon guide et des bons, un bon entraînement. C'est vraiment méditatif et exceptionnel de faire ce genre d'expérience. Et donc, le Mont Blanc, c'est aussi un dessert qui serait né à partir... aux alentours du 15e siècle en Italie et qui serait arrivé en France autour du 16e et qui puiserait son inspiration dans la coiffure des femmes de l'époque. Et alors donc pour faire le Mont Blanc, c'est très simple. On va commencer par une meringue. Alors la meringue inratable, on préchauffe notre four à 120 degrés, on va battre 4 blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. On peut ajouter 200 g de sucre, un petit peu en petite quantité par petite quantité. On continue à battre et ensuite on dépose immédiatement ces petits tas de meringue sur une plaque au four qu'on a recouverte de papier sulfurisé pour pas que ça colle trop. On va cuire entre à peu près 40 minutes à 120 degrés et une fois bien cuite, bien moelleuse, on va les décoller délicatement et on va poser nos meringues sur une grille pour les laisser refroidir. Maintenant, on va passer à la chantilly. La chantilly, c'est très simple à faire et il ne faut pas du tout se culpabiliser avec la chantilly. Moi, j'en fais même avec de la crème épaisse, avec de la crème de soja. On peut en faire avec plein de choses. À condition que notre bol et que notre fouet soient bien frais. C'est vraiment le secret. Il faut que ce soit froid. Donc, on va mettre dans notre bol de batteur 50 centilitres de crème liquide et on va battre à peu près 5-10 minutes jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. Alors, en principe, on peut rajouter, la recette, c'est de rajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace. Moi, j'en mets une pincée pour être sûr que ça tienne et encore, c'est même pas sûr que ça agisse. Donc, on peut complètement la faire sans sucre, ça marche très bien. On peut évidemment ajouter de la vanille fraîche. C'est moins bon, mais quand on a le sucre de la meringue, ça s'aggrave dans la même bouchée d'avoir
Et puis il y a la crème de marron qui arrive aussi.
Exactement, voilà, c'est ça. Justement, on arrive à la crème de marron. Donc on va verser dans un saladier, dans un cul de poule, la pâte de marron. Donc soit on achète de la pâte déjà sucrée, soit on la fait nous-mêmes, c'est un petit peu plus long. Et on va la travailler à la fourchette pour la rendre homogène. On peut incorporer 50 ml de crème. Si on n'aime pas le marron, comme Ali, on pourra faire une purée de patate douce. Alors très simple, à l'eau ou à la vapeur, on fait cuire notre patate douce, on la mixe, donc on fait une purée de patate douce et à laquelle on ajoutera 50 g de beurre. On mixe bien tout ça, donc on a ou notre crème de marron ou notre purée de patate douce. Et ensuite, on va placer notre mélange dans une poche à douille ou, si on n'en a pas, dans un sac de congélation. Alors on met le mélange dans un sac de congélation auquel on fait un petit nœud au bout. On coupe le bout et le petit coin quoi et on va s'en servir comme d'une poche à douille pour faire des petites vermicelles et donc ensuite on passe au montage. Donc dans une tasse par exemple, on va placer la meringue, la base, faire un joli dôme de chantilly de la forme du Mont Blanc si on veut, et ensuite on va disposer les vermicelles en recouvrant de filaments la chantilly dans un sens et dans l'autre. Et si vous voulez faire une version végétale, vous pouvez faire une chantilly de soja et utiliser la fameuse aquafaba, donc les
bleus de pois chiche.
L'eau de pois chiche montée en neige pour faire des meringues.
La recette d'Angèle Ferremag à retrouver sur son compte Instagram et sur l'appli France Inter. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Ce sera juste après Gaël Faye, Boomer.
Casse ton pied, ta tête, ta nuque, tout le monde. À l'époque, ils voulaient pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou, on fait tout, appelle-nous Foubou. J'fous les seuls que tout bougeait, secoue, j'mets le fire dans ton igloo. J'frappe à coup de jab comme un nunchaku, check si tu connais la ref. Moi, Namboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas, Kigali jusqu'à Goma. Décibels à dose létale, yeah, boum et les baffes. Chante, danse, yeah. Fais boomer les boomers, ok. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillée. Fais boomer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait. Fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux. Bébé, je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux, comme le staff Bendabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front. Paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, je fais boum et boum et le caisson. Chanter, danser, fais boumer les boomers. Okay. Slasher, s'égayer, fais boumer les boomers. La vie s'éveiller, fais boumer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait, fais boumer les boomers. Chanter, danser, fais boumer les boomers. Okay. Slasher, s'égayer, fais boomer les boomers. La vie s'éveiller, fais boumer les boomers. Boomer.
Gaël Faye interprété Boomer.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. Alors Maya, tu nous laisses mariner depuis le début de l'émission. Quel est le point commun entre la montagne, la lecture, la nourriture et la sexualité?
Et personne n'avait trouvé le plaisir, pourtant, évidemment, enfin camarade. Oh là là. Et mieux encore, le plaisir démocratique, gratuit, qui augmente quand on le partage. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de plaisirs du week-end. On peut jouer, faire la fête, boire, rire ensemble, coucher ensemble. Et ce, grâce au philosophe Michael Fussell, dont le nouvel ouvrage vient de paraître, Quartier Rouge, sous-titre « Les plaisirs et la gauche ». Comment prendre plus de plaisir? Selon Michael Fussell, j'ai relevé trois pistes.
Alors c'est parti pour la première piste.
Pour prendre du plaisir sexuel, il faut sortir d'une logique utilitariste. Parfois, on s'imagine que le plaisir consiste à satisfaire un désir. On a une idée. On remplit le contrat, on est content. Bon, ce qui est embêtant avec cette conception du plaisir, c'est que tout est déjà écrit. Donc non seulement on n'a pas de surprise, mais en plus il faut que tout soit conforme à ce qu'on avait anticipé. Sinon on est déçu. Fussell nous encourage à faire attention à ne pas transformer les fantasmes en cahier des charges, surtout si on regarde du porno, parce que là vraiment, vraiment, le réel ne correspondra jamais aux attentes. Alors, ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est une vraie prise de risque. Arrêter de tout vouloir maîtriser, laisser le sexe nous arriver, nous bousculer, laisser les autres nous arriver, nous faire changer, avec notre consentement, bien sûr, mais quand même arrêter de transformer la sexualité en investissement dont on espère tirer forcément des bénéfices. Et quand on est surpris par le plaisir, quand vraiment il se passe un truc, Fussell a une très belle expression, c'est un miracle dans une vie de chien.
Quel est le deuxième conseil, Maya ?
Délivrer la sexualité de l'exigence de rendement. Ok, mais comment? Eh bien concrètement, ça passe par deux points. Libérer la sexualité dans l'espace et dans le temps. Je commence par l'espace du corps. Il faudrait cesser de diviser en petits morceaux les organes génitaux d'un côté et puis de l'autre les organes dédiés au travail, à l'amour, au loisir, etc. En fait, il faudrait faire l'amour avec tout son corps à soi et tant qu'à faire avec tout le corps de l'autre. Et puis ensuite, libérer la sexualité dans le temps. Très bien, il pourrait suffire de faire l'amour en dehors des heures réglementaires, comme faire l'amour maintenant, pendant ces heures de travail. Mais le temps, c'est aussi celui de la grande histoire. Et là, vous connaissez en fait cette petite musique. Le sexe était mieux avant, aujourd'hui on a la misère sexuelle. Ouais, super, mais j'ai pas sûr que c'était mieux avant. On n'a pas d'enquête pour confirmer que les chevaliers et les grandes dames étaient satisfaits sexuellement. Et puis bien sûr, la misère sexuelle, on parle jamais de celle des femmes dans le passé. Donc au lieu de toujours révérer un âge d'or imaginaire de la sexualité, Fussell nous invite à inventer des nouveaux plaisirs maintenant. Alors ça peut être, je sais pas, Internet, les sextoys, les lieux sexuels qui maintenant ont réouvert, les groupes de lecture érotique, le tantra, il y a plein de trucs à inventer, et sans doute plein de choses déjà inventées mais que vous n'avez jamais essayé.
Et enfin, un troisième conseil, Maya?
Eh bien le partage, lui-même bien sûr. Fussell nous invite à sortir de l'idée que quand on prend du plaisir, on le prend forcément à quelqu'un. Le partage, c'est par exemple faire du sexe à deux ou plus, parce que mine de rien, il faut être au moins deux pour perdre le contrôle. Le partage, c'est le consentement évidemment, mais aussi une division plus égalitaire des rôles au lit pendant les rapports sexuels. Le partage, c'est une sexualité qui sort de la maison, qui n'est pas domestiquée. Le partage, c'est une sexualité gratuite, car tout dans la société de consommation n'est pas consommation. Le partage, c'est de pouvoir inventer des plaisirs qu'on n'aurait même pas pu imaginer à l'avance. Et je vous laisse avec une belle perspective pour le week-end. Les plaisirs partagés ont cet avantage sur les imaginaires de l'égalité qu'ils n'attendent ni les révolutions ni les réformes pour exister. Vous pouvez donc vous mettre au boulot
maintenant. Et bon week-end, Bisson, camarade.
Et Julien Bisson, toujours très attentif.
J'ai noté les pistes, je ne sais pas si c'est des pistes vertes ou des pistes noires.
Hein. Et le sexe, c'est de gauche alors.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Le 8 mars, Maya, tu nous proposes un doc qui s'appelle Désir, ce que veulent les femmes. Ce sera sur TMC à 21h15, donc ouais. Le 8 mars. On en reparlera. Merci à tous, Sandrine Guimet, Angèle Thibault, Sylvain, Julien et tous les autres à l'écoute du Club du Vendredi. Lundi, dans Grand Main vous fasse, on s'intéresse à un sujet très important, le Covid long. Toutes vos questions sur le Covid long, dès maintenant sur l'appli France Inter et dès 9h au 01 45 24 7000. Et Sylvain Bazin, un ultime pan sur le bec. On part de Belle-Île depuis Quiberon.
Depuis Quiberon, désolé, j'ai embrouillé, mais avec groix, voilà.